VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jacques Aristide avec vous. Nous sommes le lundi 30 avril 2018 à la une ce soir. Le président Trump dit vouloir travailler avec le Nigeria dans la lutte antiterroriste en recevant Muhammadu Buhari.
I especially want to thank President Buhari for Nigeria's partnership and leadership in the fight against terrorism.
Le président Donald Trump. Également dans l'actualité, en RDC, un nouveau bilan fait état de 7 morts et de 18 blessés dans une fusillade à Goma. Nouvelle tuerie en zone anglophone au Cameroun, 2 gendarmes tués dans le nord-ouest. En Afghanistan, une quarantaine de morts, dont 10 journalistes, dans une série d'attentats meurtriers. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Le président américain Donald Trump a affiché tout à l'heure sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le Nigeria dans la lutte antiterroriste en recevant son homologue Muhammadu Buhari, premier dirigeant d'Afrique subsaharienne, invité à la Maison-Blanche depuis son arrivée au pouvoir. Les deux dirigeants viennent de tenir une conférence de presse commune que nous résume John Linden.
Le président Trump a d'abord remercié son homologue Buhari, disant qu'ils ont tellement de choses à faire ensemble, particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme. Les deux hommes ont aussi discuté de commerce et d'équipement militaire. M. Trump a d'autre part rappelé qu'il y a le problème des chrétiens qui sont tués au Nigeria. De son côté, M. Buhari a bien sûr remercié son hôte en précisant que malheureusement, la sécurité a été le sujet principal de leur discussion. Il a remercié les États-Unis qui sont maintenant d'accord pour vendre des hélicoptères à Abuja et pour la présence militaire américaine pour des besoins de formation de l'armée nigériane, disant que son pays vit pleinement l'engagement des États-Unis contre le terrorisme. Sur la question des filles kidnappées au Nigeria avant son arrivée au pouvoir en 2014, le président Buhari a répondu que 80 d'entre elles ont été libérées. Pour celle de Dapchi, selon lui, 106 ont été kidnappées et 100 ont été retrouvées, 4 sont mortes et une est toujours en captivité. Le président nigérien a enfin remercié les Nations Unies pour leur rôle dans la libération de ses filles.
7 personnes ont été tuées et 18 blessées dans une fusillade hier soir à Goma, la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. D'après le maire Timothée Mouissa Kense, des hommes non identifiés ont semé la terreur. Ils ont tiré dans tous les sens, dit-il. Les 18 autres blessés restent toujours internés à l'hôpital Ndosho. La fusillade a éclaté dans un quartier à la périphérie de la ville Mugunga, sur la route du territoire de Masisi. Le mouvement politique de l'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, a poursuivi ce lundi son opération de charme en République démocratique du Congo après son déplacement remarqué ce week-end au Rwanda en présence du président Paul Kagame. À Kinshasa, le mouvement Ensemble de M. Katumbi a lancé 2 journées portes ouvertes pour populariser son programme, un programme qui vise à remettre le pays au travail d'après M. Katumbi, candidat à la présidentielle de décembre 2018. Il a fait un séjour remarqué ce week-end Rwanda voisin qui entretient des relations complexes avec la RDC. Lors de la remise du prix Mo Ibrahim à Kigali, le président rwandais Paul Kagame s'est dit préoccupé de la crise politique en RDC. Les problèmes du Congo ne sont pas seulement des problèmes du Congo. Il nous affecte aussi en tant que voisin, a-t-il déclaré. En RDC, les élections sont prévues le 23 décembre, 2 ans après la fin du deuxième et dernier mandat de l'actuel président Joseph Kabila. 2 gendarmes camerounais ont été tués dans une localité du Nord-Ouest, l'une des 2 régions anglophones du Cameroun où la violence s'est accrue ces dernières semaines. Cela s'est passé à Balinyonga samedi dernier, mais l'information a été dévoilée. Ce lundi, une source proche des services de sécurité a fait état d'un nouvel acte de sécessionnistes anglophones. À Bélo, dans la même région du Nord-Ouest, un prêtre catholique, William Neba, également principal d'un lycée, a été brièvement quitté kidnappé aujourd'hui par des séparatistes anglophones. Il a été libéré plus tard dans la journée. C'est la première fois que les séparatistes anglophones s'en prennent à un représentant de l'Église catholique. Les parents d'élèves ont envahi les établissements scolaires de la zone de Bélo pour récupérer leurs enfants après l'assaut. Au Burundi, Melkiad Zopfa Barouché, un cadre du parti CNDD-FDD et ancien chef de cabinet adjoint du président Pierre Nkurunziza, a été arrêté et écroué hier pour incitation à la haine. Il avait tenu des propos menaçants envers les opposants au référendum constitutionnel du 17 mai de Bujumbura, le compte-rendu de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Melkiad Zopfa Barouché, ancien directeur de cabinet civil adjoint du numéro 1 burundais, a été condamné par le tribunal de grande instance de Bujumbura Oral à 3 ans de prison ferme pour atteinte à la sécurité intérieure et menace contre les personnes. Il avait promis il y a quelques jours à Migira, dans la localité de Kabezi, province de Bujumbura Oral, que tout opposant qui sera identifié dans tout comité collinaire du parti CNDD-FDD sera charrié par le biais d'un bateau dans le lac Tanganyika et pourra terminer sa course du côté de la République démocratique du Congo. Des propos de nature à semer la haine à la veille du référendum et qui ont été condamnés par plusieurs cadres du parti présidentiel et l'ombudsman burundais. À peine de 3 ans, Kekop, en cadre du parti présidentiel, à plus de 2 semaines du référendum constitutionnel, montre la détermination des autorités de Bujumbura de ne plus accepter des individus qui veulent faire des menaces aux personnes qui vont voter librement pour l'acceptation de la nouvelle constitution du Burundi, selon des analystes indépendants. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le Tchad a adopté ce lundi par voie parlementaire une nouvelle constitution qui met en place une 4e république et un régime présidentiel. Pour les détails, Cap d'emblée, Sonjamena, où nous retrouvons notre correspondant André Kodmajingar.
Tout le long de l'avenue Pascal Yadmadi qui mène vers le palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, situé à 10 km environ du centre-ville, a été pris d'assaut ce lundi au petit matin par les forces de défense et de sécurité. Les éléments de la gendarmerie, de la police nationale et ceux de la garde nomade lourdement armés et équipés de canons à eau ont encerclé le siège de l'Assemblée nationale, dispersant toute tentative de regroupement, traumatisant la population de la commune du 7e arrondissement considérée comme fief de l'opposition. Le coordonnateur du front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, Mahamat Amat Alabo, accompagné de ses collègues de l'opposition pour prendre part à cette séance, a été éconduit à l'entrée de l'hémicycle par le service de sécurité. Dans le couloir, un député du parti au pouvoir, impressionné par l'arsenal de guerre déployé, a déclaré, je cite, « Nous sommes tous partants pour la 4e République, mais j'ai comme l'impression qu'on veut nous faire voter à main armée. » Fin de citation. C'est dans ce climat que les députés ont voté la nouvelle constitution de la 4e République. Pour l'heure, le président Déby dispose de 8 jours franc pour promulguer la nouvelle loi fondamentale qui lui donne tout le pouvoir de régner en maître absolu. André Kodmajingar Ndjamena, VO Afrique.
Un Sénégalais de 31 ans a reconnu ce lundi devant un tribunal de Dakar avoir reçu de l'argent de membres du groupe État islamique et de Boko Haram. Maktar Diokane Alius Abou Anwar a toutefois affirmé avoir ignoré l'appartenance à ces groupes djihadistes des individus qui lui avaient remis l'argent. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, rejette les accusations de corruption dont elle fait l'objet. Elle est rentrée dans son pays ce week-end après 4 ans d'exil. Madame Banda a jugé ce lundi que ces accusations étaient politiquement motivées. La police a délivré en 2017 un mandat d'arrêt contre l'ex-chef d'État qui n'a toutefois pas été inquiété depuis samedi. Première femme à la tête du Malawi, Joyce Banda, avait quitté son pays en 2014 après sa défaite à la présidentielle et alors qu'elle était mise en cause dans un gigantesque scandale de corruption. Le scandale a éclaté en 2013. Un audit international a révélé que 30 millions de dollars avaient été siphonnés des caisses du pays au profit de dizaines de hauts fonctionnaires, hommes d'affaires et dirigeants politiques.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le cahier international, en Afghanistan, au moins 37 personnes, dont 10 journalistes, ont été tuées dans une série d'attentats à Kaboul et dans le sud du pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Un double attentat suicide a frappé la capitale afghane, faisant au moins 25 morts, dont Shah Marai, chef photographe de l'AFP à Kaboul. 8 autres journalistes ont été tués lors de la deuxième explosion. Selon une source sécuritaire, le kamikaze s'est glissé parmi les reporters, faussement muni d'une caméra et a fait exploser sa ceinture. Ce double attentat a été revendiqué par le groupe État islamique qui a qualifié les forces de sécurité et les médias de mécréants. Peu après, un autre attentat perpétré par un kamikaze en voiture a tué 11 enfants dans le sud-est du pays. Dans cette même région, un reporter afghan de la BBC a été tué par balle. Ces dernières attaques n'ont pas été revendiquées. Le 22 avril, une attaque a fait près de 60 morts dans une école de Kaboul où les électeurs se faisaient enrôler en vue des élections générales prévues le 20 octobre. Mercredi dernier, les talibans ont lancé leur offensive de printemps, rejetant implicitement les appels du gouvernement à entamer des négociations de paix. D'après les chiffres officiels, les attaques contre les civils ont fait 763 morts et près de 1500 blessés durant le premier trimestre de l'année 2018.
Voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
11 chefs d'État africains se sont réunis dimanche à Brazzaville pour mobiliser des financements pour le fonds bleu du bassin du Congo. Le bassin est le deuxième poumon écologique de la planète. L'initiative veut protéger les 220 millions d'hectares du bassin pour permettre aux économies de la région liées à l'exploitation des forêts de passer à une économie fondée sur les ressources issues de la gestion des eaux et fleuves. Les projets vont porter sur l'amélioration des voies navigables, la construction des petits barrages hydroélectriques, le renforcement des systèmes d'irrigation et le développement de la pêche. L'Algérie va construire 41 nouvelles zones industrielles dans 34 départements du nord et du sud du pays. Alger a déjà débloqué 860 millions de dollars pour le démarrage des travaux. Près de 10 000 hectares de foncier industriel ont été aménagés et mis à la disposition des investisseurs. Le pays dispose actuellement de 72 zones industrielles. Les Européens prêts à riposter à des sanctions américaines sur l'acier. Ils veulent taxer de manière ciblée et proportionner des dizaines de produits emblématiques américains, surtout le tabac, le bourbon, les jeans ou les motos. L'exemption temporaire de taxes que le président Donald Trump a accordée fin mars à l'Union européenne expire demain mardi. L'Union européenne réclame depuis des semaines l'exemption définitive, mais sans grand espoir de l'arracher. Washington réclame des concessions, notamment sur le traitement équitable des automobiles.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Hey, bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
L'Europe du football a les yeux rivés sur Madrid.
Oui, Real Madrid-Bayern Munich, demain en demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Malgré la victoire à l'aller de 2-1, Zinedine Zidane s'attend à cravacher comme jamais pour atteindre sa troisième finale d'affilée. Rien n'est joué, répète à l'envi l'entraîneur français du Real Madrid, qui voit dans ce duel au stade Santiago Bernabéu la marche la plus haute à franchir cette saison pour les doubles champions d'Europe en titre, qui visent, vous le savez, un triplé historique dans cette Ligue des Champions. La tâche s'annonce difficile pour les Bavarois, qui devront marquer au moins deux fois à Santiago Bernabéu, avec dans les rangs madrilènes l'inévitable Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la C1, grâce à 120 buts en 151 matchs, mais qui n'a pas marqué à Munich. Il voudra sans doute se rattraper devant son public.
L'Espagne dévoilera bientôt sa liste des 23 joueurs retenus pour le Mondial en Russie.
Oui, le sélectionneur de l'Espagne, Julen Lopetegui, annoncera sa liste des joueurs convoqués le 18 mai à Madrid, juste avant la dernière journée de la Liga, le week-end du 20 mai. Tous les sélectionneurs doivent en principe fournir à la FIFA une liste provisoire de 35 joueurs le 14 mai, avant de la ramener à 23 noms au 4 juin. On rappelle que l'Espagne, championne du monde 2010, entrera en lice en Russie avec un choc contre le Portugal, champion d'Europe en titre. Ce sera le 15 juin à Sochi, dans le groupe B.
Cyclisme, fin du Tour du Sénégal.
Le Namibien Dan Craven a remporté l'édition 2018 du Tour du Sénégal. Le coureur de la formation allemande Team Embrace the World devance l'Algérien Abderrahmane Mehdi Hamza et le Néerlandais Rick Nobel. La dernière étape courue dimanche a été gagnée par l'Algérien Islem Mansouri, vainqueur de l'édition 2017.
Et puis Nicolas, NBA, championnat de basket nord-américain.
Et James Harden, avec ses 41 points, n'a laissé aucune chance à Utah, submergé 110 à 96 par Houston. Lors du premier match du deuxième tour des playoffs, c'était hier. LeBron James, de son côté, a répondu présent en situation de crise. Avec ses 45 points, la superstar de Cleveland a fait plier Indiana, une victoire des Cavaliers 105 à 101. Ce qui permet à Cleveland et surtout à LeBron James de passer le premier tour des playoffs NBA.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Retour à l'adoption de la nouvelle constitution au Tchad. Les députés du pays ont donc voté ce lundi ce projet de révision constitutionnelle qui met en place un régime présidentiel et renforce les pouvoirs du président Idriss Déby Itno. L'opposition avait appelé ses députés à boycotter le vote tout en demandant à la population de se rendre à l'Assemblée nationale pour assister à la séance publique. Abdourahmane Nadia a joint N'Djamena Brice Mbaye Mong Gwenbaye, président du mouvement des patriotes tchadiens pour la République.
Nous avons lancé un appel à nos militants de se rendre à la séance plénière de l'Assemblée nationale. Et nous aussi, nous sommes rendus à l'Assemblée nationale, puisque dans la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée, les séances plénières de l'Assemblée sont publiques. Toutes les séances sont publiques et donc les citoyens peuvent venir à l'Assemblée nationale assister au débat. Alors moi, nous sommes rendus un fort déploiement de forces de l'ordre qui ont bouché tous les accès à l'Assemblée nationale et arrivés aux portes donc du palais de la démocratie qui a pris le siège de l'Assemblée. Nous avons été conduits. Certains d'entre nous qui se retrouvent dans la cour ont été expulsés.
L'opposition avait quand même appelé au boycott, n'est-ce pas?
L'opposition a appelé au boycott et a demandé à ses députés de ne pas participer à tout le processus donc, de validation de cette loi.
Mais est-ce que ce n'est pas de la provocation alors?
Non, ce n'est pas de la provocation puisque les députés qui avaient, nos députés avaient déjà suspendu leur participation. Mais en ce qui concerne la séance plénière en question, nous voulons nous rendre là-bas pour assister de manière pratique au débat. Et nous avons en faisant comme ça, nous ne faisons que usage à notre droit qui est d'assister à une séance publique. Nous ne faisons pas de la provocation. La preuve est que le personnel de l'Assemblée ou alors tous les autres chauffeurs et consorts qui arrivent à l'Assemblée assistent à la séance. Ce n'est pas pourquoi nous avons été identifiés et refoulés.
Quels sont les griefs que vous avez contre ce texte? Que reprochez-vous à ce texte?
Vous savez, globalement, il y a beaucoup à reprocher à ce texte. Mais d'abord, par principe, nous avons rejeté le principe donc de l'organisation du forum qui a conduit dans les conclusions à l'élaboration de ce texte. Quand le gouvernement avait décidé d'organiser le forum, au niveau de l'opposition, nous avons suggéré un dialogue inclusif qui peut réunir tous les acteurs politiques et sociaux en vue donc d'arriver à un consensus. Deuxièmement, on nous présente un projet de constitution dans lequel on a mis tout, sauf un état de droit. On a injecté là-dedans des dispositions assez scélérates, des dispositions liberticides. Donc pour cela, nous pouvons faire passer un texte de ce genre-là à l'Assemblée nationale. Il faudrait que cela soit soumis à l'approbation du peuple et donc aller le faire valider par référendum.
On écoutait Brice Mbaye Mong, Ged Mbaye, président du mouvement des patriotes tchadiens pour la République.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Cap maintenant sur la capitale économique de la Côte d'Ivoire, où se déroule depuis vendredi dernier la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, le CITA en abrégé. Une vingtaine de pays prennent part à l'événement, dont la clôture est prévue pour demain, mardi. Visite guidée avec notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tonkara.
C'est l'un des plus grands rendez-vous des professionnels du tourisme, le Salon international du tourisme d'Abidjan, le CITA. Chaque année, l'événement mobilise à Abidjan les principaux acteurs de la chaîne touristique, les agences de voyage, les compagnies aériennes, les hôteliers, les restaurateurs et les tours opérateurs. À cette 8e édition, plus de 200 exposants, en provenance d'une vingtaine de pays, ont répondu présents. Jean-Marie Sommet, commissaire général du CITA.
Le salon, c'est pour faire l'état des lieux dans le thème du tourisme. C'est un secteur d'activité porteur pour tous les pays du monde. Mais nous avons demandé aux pays africains d'être présents pour partager ensemble leur expérience et voir comment on peut ensemble faire des destinations inter-états, partager ensemble avec les autres leur expérience, faire du B2B. C'est le plus grand secteur économique du monde, c'est le secteur des services.
Au nombre de la vingtaine de pays présents à ce salon, en vue de présenter leur richesse culturelle et touristique, il y a le Burkina, la Guinée, le Gabon, le Sénégal, la Chine, l'Inde ou encore le Mali. Fatoumata Ouattara, directrice générale de l'agence des promotions touristiques du Mali.
Nous avons un riche patrimoine culturel, hérité des grands empires que le Mali a connus, avec 12 sites classés patrimoine mondial matériel et immatériel par l'UNESCO, dont la célèbre mosquée de Djéné, qui est le plus grand monument en Banco du monde. Nous avons également une grande diversité de faune et de flore. Et quand vous venez au Mali, vous pouvez également faire des croisades sur le fleuve Niger.
Le Maroc est aussi présent à ce salon. Noureddine Nassiri de l'Office marocain du tourisme salue la coopération sud-sud.
Il y a eu la création de l'association des directeurs des offices tourisme africains ici à Abidjan. Ça, c'est une bonne chose. C'est l'avenir que la coopération sud-sud aboutit à quelque chose. Ça se fait dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, ça se concrétise de plus en plus dans le tourisme. On est fiers de ça.
Evelyne Lekien sillonne l'Afrique depuis des années pour aider différents pays à être plus visibles sur les radars du tourisme mondial. Elle est la directrice de l'agence Outre-mer.
En fait, on aide les régions des pays africains à trouver les stratégies de développement touristique, créer des parcours, les positionner sur un plan cible de clientèle, etc. Et on crée les outils de communication, notamment les films capsules pour mettre sur le web, les flyers, les affiches. Et puis, on structure les villages pour effectivement leur permettre d'accueillir les visiteurs.
L'ambition des autorités ivoiriennes, faire du pays la 5e destination touristique du continent. Pour y parvenir, des investissements de l'ordre de 3000 milliards de francs CFA sont prévus. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Direction Burkina Faso maintenant. Eh bien, mauvaise nouvelle, le pays vient de perdre sa première place de producteur de coton en Afrique au profit du Mali. Pour la prochaine saison, l'association interprofessionnelle de coton du Burkina entend reconquérir sa première place en fixant la production nationale à 836 000 tonnes et une augmentation du prix d'achat du kilo de coton au producteur. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Sans faire dans le jeu de mots de mauvais goût, on peut dire que le Burkina Faso a filé du mauvais coton en cette campagne 2017-2018. Suivant Ali Compaoré, le directeur général de la Socoma, société cotonnière du gourmand.
L'insuffisance des pluies est passée par là. Les conséquences d'un tel profil pluviométrique atypique ont été une perturbation du développement normal du cotonnier dans un nombre assez important de parcelles, une forte recrudescence du parasitisme ainsi. Le volume de la production de coton grain conventionnel attendu au plan national pourra atteindre d'ici la fin de la campagne de drainage, d'ici donc la fin du mois de mai, 612 000 tonnes de coton grain. Si à cette production, on enregistre celle du coton biologique équitable de 1300 tonnes, la production nationale devrait donc se situer à 613 000 tonnes de coton grain. Ce niveau de production place le Burkina au deuxième rang des pays producteurs de coton africain, après le Mali
Pour reprendre sa place de leader, les responsables du coton du Burkina ont fixé la barre de production pour la nouvelle campagne à plus de 800 000 tonnes. Ali Compaoré, le directeur général de Sokouma, explique.
Cette année, effectivement, l'objectif de production fixé par la ICB est de 836 000 tonnes. Nous pensons que cet objectif est réaliste et réalisable pour plusieurs raisons. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà recensé tous les besoins des producteurs. Donc, nous avons individuellement les plans de campagne de chaque producteur. Donc, quand vous prenez la compilation donc, de ces éléments-là, on se rend bien compte que nous sommes au-delà de 900 000 hectares. Nous avons porté le prix d'achat coton graines à 250 francs. C'est une amélioration par rapport à la campagne passée. Nous avons pu également, grâce à des subventions apportées par l'État burkinabé, nous avons pu maintenir le prix de cession des intrants au même niveau que la campagne passée.
La Sofitex, société des fibres textiles du Burkina, entend mettre en œuvre une assurance agricole. Suivons avec Wilfried Yamego, le directeur général de la Sofitex, les détails de cette assurance agricole.
Nous avons imaginé, avec les partenaires assureurs, la mise en place donc d'une assurance agricole. C'est 5800 le premier étage et 11200 le deuxième étage. Le premier étage de prime de 5800 donne droit à une indemnité de 45 000 francs à l'hectare. Le second étage donnant droit à une indemnité de 90 000 francs à l'hectare.
Que pensent les producteurs de coton de l'assurance agricole et de la perte de la première place par le Burkina? Écoutons Yacouba Koura. Il est le vice-président de l'UNPCB, Union nationale des producteurs de coton du Burkina.
Vraiment, le Burkina a perdu sa première place. Ça nous fait très mal. Par rapport à l'assurance, je pense que c'est la bienvenue.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Joselle Morisson. C'était notre ami Wojtek Zorniak qui était à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
En vue de limiter les ressources qui attisent la guerre civile au Soudan du Sud, le département du commerce des États-Unis a imposé des exigences de licence à 15 entités pétrolières sud-soudanaises dont les revenus alimentent la crise en cours. Cela signifie que l'exportation, la réexportation et le transfert par ces entités de tout produit ou article américain sont désormais soumis à une licence d'exportation. Selon la Banque mondiale, le Soudan du Sud est l'un des pays le plus dépendant du pétrole, l'or noir représentant presque la totalité de ses exportations et environ 60% de son PIB. À travers leur action, les États-Unis espèrent accentuer la pression en vue de mettre un terme à 5 ans de guerre civile dans ce pays et la crise humanitaire qui en a résulté. En décembre 2013, en moins de 18 mois après avoir déclaré son indépendance, le Soudan du Sud s'est trouvé confronté à une lutte de pouvoir entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Ce conflit qui s'est transformé en une guerre civile a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. L'économie a été dévastée, avec en plus une prévalence des abus des droits humains, de la famine et de la malnutrition. Les violences ont fait près de 2 millions de déplacés internes et plus de 2 millions de Sud-Soudanais se sont réfugiés dans les pays voisins. Les 15 entités visées par les sanctions américaines incluent les ministères sud-soudanais du pétrole et des mines et la compagnie pétrolière d'État Nile Petroleum. Sont également visées Dar Petroleum Operating Company la compagnie de distribution pétrolière NEAC et fils, Greater Pioneer Operating Company, Juba Petrotech Technical Services et Sud Petroleum Operating Company. Ces compagnies sont une source de revenus substantiels pour le gouvernement du Soudan du Sud, a déclaré la porte-parole du département d'État, Heather Nauert. Malheureusement, le gouvernement sud-soudanais et les responsables corrompus utilisent ces revenus pour acheter des armes et financer des milices qui sapent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud au lieu d'assurer le bien-être et fournir l'aide alimentaire d'urgence en faveur du peuple sud-soudanais. Le gouvernement du Soudan du Sud peut faire mieux, a dit Heather Nauert. En tant que principal fournisseur d'aide au Soudan du Sud, les États-Unis sont fiers de défendre les valeurs humanitaires et de fournir une assistance vitale. Le gouvernement du Soudan du Sud ne doit pas gaspiller cette générosité, mais plutôt prendre des mesures concrètes pour satisfaire les énormes besoins du peuple sud-soudanais.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à